Avec Déclencheur Mini, la photo s'écoute enfin.
Bien, je suis avec Vincent Nuc ici, bonjour.
Bonjour Benoît.
Une des questions que je trouve assez intéressante, par rapport à ton travail pour Réponse Photo, tu testes énormément de produits. Et je sais que quand on lit les tests, on aimerait bien parfois savoir un petit peu qu'est-ce que la personne qui l'a écrit a cherché à me dire pour que je sache comment je vais pouvoir trouver, moi, l'info qui est pertinente dans le test.
En fait, les tests sont faits avec deux protocoles, entre guillemets, parallèles. L'un qui est complètement technique et donc qui est sanctionné, en fait, par une note. Et un protocole, en fait, qui est plus axé sur l'utilisation réelle de l'appareil, sur l'accès au menu, sur... les fonctionnalités qu'offre l'appareil, la qualité aussi qu'il propose. Et tout ça, en fait, est rédigé au niveau du texte avec une architecture de test qui est toujours à peu près la même. On part de l'ergonomie de l'appareil et on développe ensuite sur la qualité d'image à proprement parler, avec aussi des focus en fait sur des détails, sur certains paramètres techniques aussi qu'on met en avant ou des fonctions spéciales qu'on peut ou ne peut pas trouver sur l'appareil concerné.
Et quand vous écrivez un test, vous avez qui en tête quand vous écrivez ?
En fait, on reprend un petit peu la cible de l'appareil lui-même, donc on n'aura pas la même façon de rédiger le test d'un D40 qui est plutôt un boîtier d'entrée de gamme chez Nikon que la façon de rédiger un test pour un EOS 1D Mark III qui est vraiment du gros haut de gamme professionnel chez Canon. Donc on a déjà ça en ligne de mire. Ensuite, on a aussi l'histoire en fait des gammes dans la marque qui nous permet donc de voir si le produit qui arrive en fait va remplacer un produit existant en apportant beaucoup de choses ou pas. Et là se pose aussi la question de savoir est-ce que je change mon matériel, et on essaye de répondre un peu à cette double question de savoir si c'est un premier investissement ou si c'est du renouvellement. Par exemple, pour le cas du Canon EOS 30D, il y avait relativement peu de nouveautés par rapport au 20D, et donc la question qui se posait c'était de savoir s'il fallait ou non changer, et donc trouver des arguments pour, trouver des arguments contre, et aider les gens en fait à faire leur choix comme ça.
Je sais que pendant longtemps j'ai pesté sur le fait qu'il n'y avait jamais, même sur des réflexes experts, on testait que le JPEG, sans se préoccuper du RAW, ce qui me semble être moi le format préférable. Comment est-ce que vous décidez, ça c'est un élément important dans le test, ça c'est pas un élément, parce qu'il y a tellement de fonctions maintenant sur les appareils.
C'est extrêmement délicat, ouais. On va souvent au niveau de la rédaction du test en tout cas être assez léger sur les fonctions classiques qu'offrent tous les appareils et vraiment développer que ses points forts et les nouveautés. En ce qui concerne le JPEG ou le RAW, c'est vrai que dans bien des cas, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, la plupart des gens utilisaient le JPEG en qualité maximale et ça leur suffisait. Petit à petit, les fichiers RAW ont été de plus en plus faciles à traiter, de plus en plus rapides à traiter. Je suis convaincu que sur une série de packshots, on va plus vite à faire une prise de vue en RAW, à développer ça correctement dans Bridge et Photoshop, qu'à faire la prise de vue en JPEG.
Je suis 100% d'accord.
Donc en fait, les logiciels de développement RAW, on en parle le plus possible dans les tests, mais ils sont pas toujours inclus. Par exemple, chez Nikon, Nikon Capture est en option. Et souvent, les utilitaires qui sont offerts avec les appareils, si c'est un appareil de pré-série sur lequel on fait une prise en main, on a bien souvent pas le logiciel, donc il n'est pas évident de donner un avis dessus. Sur les boîtiers de série, on essaie de plus en plus de développer cet aspect et de donner un petit peu en quelques mots en fait les points forts, points faibles du logiciel en question. Mais ça reste un point extrêmement délicat parce que non seulement la qualité des développements en fait offerts par ces logiciels-là est différente d'un soft à l'autre, mais en plus bon, il y a aussi tous les logiciels indépendants qui peuvent être une offre alternative à ça, et on peut absolument pas être exhaustif à notre grande âme.
Comment est-ce que vous imaginez qu'on va lire le test ? Est-ce que tu conseilles qu'on démarre par la note, en se disant tiens, celui-là il fait 75, celui-là il fait 78, donc c'est le 78 le bon, c'est celui-là que je vais lire en détail ? Ou est-ce que 2, 75, ça veut pas nécessairement dire la même chose, ce genre de choses ?
En effet, la note donne une indication déjà de base. Elle est pas suffisante en soi. C'est vrai que comme tu le disais, 2, 75 valent pas exactement la même chose, parce qu'il y a autant de besoins de photographes qu'il n'y a de photographes. On est dans l'impossibilité de répondre vraiment à toutes les attentes, et c'est frustrant parce qu'on est limité en nombre de pages, en temps, en moyens et en personnes. Le texte, justement, essaye au maximum de développer au moins toutes les bribes de ces aspects. Et c'est en lisant le texte, en regardant justement les détails ergonomiques, en regardant aussi les commentaires sur les photos expliquées, le logiciel de développement de fichiers RAW dont on parlait tout à l'heure, on pondère en fait soi-même, en fonction de ces critères, la note qui est donnée en fait par le magazine.
Ouais, j'ai déjà une batterie de flash de Nikon, j'ai déjà des objectifs Nikon. Super, le dernier Canon est formidable, mais je vais peut-être quand même pas tout balancer, quoi.
Voilà, ça c'est sans doute le critère critère de base quand on arrive dans un marché de renouvellement. C'est extrêmement difficile en fait de faire un conseil qui soit vraiment utilisable par tous. Mais c'est aussi pour ça que la rédaction répond au téléphone, qu'il y a beaucoup de lecteurs qui nous contactent et qui font bien de le faire.
En fait, quand on regarde les notes, globalement, elles sont très largement positives. On ne voit jamais un appareil se faire démolir dans un test. Est-ce que c'est parce que objectivement tous les fabricants sont à ce niveau de qualité-là? Est-ce que c'est parce que si un appareil est mauvais, vous préférez pas en parler?
Il y a effectivement pas mal de raisons. La première, c'est qu'effectivement, on arrive maintenant à un niveau de qualité qui est assez étonnant. La seconde, c'est qu'effectivement, quand on se retrouve à avoir des notes qui sont finalement bien en deçà des notes habituelles, on se doute qu'il y a quand même un problème quelque part. Il y a toute une relation qui se fait avec les chefs produits, avec les constructeurs et un dialogue pour justement ne pas en arriver à massacrer un appareil suite à une erreur ou un problème de firmware ou quelque raison que ce soit. Mais on arrive maintenant à des produits qui sont vraiment d'une très très bonne qualité. Il y aurait peut-être besoin, chez Réponse Photo comme dans d'autres magazines, de réaffiner justement les critères de notation pour avoir un différentiel plus fort entre les bons et les très bons.
Ok, eh bien écoute Vincent, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré.
Mais merci à toi.
Vous écoutez Déclencheur Mini parce qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi.